Je suis Laurent Jean-Pierre, à ma gauche Michel Kokoreff, tous les deux chercheurs au CRESPA. Nous sommes dans le moment inaugural de ces journées d'études qui s'intitulent « Politisation émergente, politisation précaire ». Bienvenue, merci beaucoup d'être venu. Michel et moi allons faire une présentation extrêmement brève de nos intentions et puis des règles du jeu scientifiques et pratiques de nos trois demi-journées. Pour les introduire, il faut peut-être rappeler qu'il s'agit des premières journées d'études de l'axe transversal frontière et dynamique de la citoyenneté, axe transversal donc du CRESPA. Je remercie d'ailleurs d'emblée à ce sujet les collègues du laboratoire qui participent aux journées, soit en présidant des sessions, soit effectivement en contribuant directement aux sessions, ainsi que celles et ceux qui ont élaboré cet axe transversal et qui ont participé à la mise en place scientifique de ces premières journées d'axe. Je remercie évidemment également les chercheurs extérieurs au laboratoire que nous avons sollicité d'avoir bien voulu venir nous appuyer dans notre réflexion collective et d'enrichir les travaux de ces journées qu'on espère fructueux et importants. Alors plutôt que de redire ou de synthétiser l'argumentaire que en tout cas les participants ont eu en main, on va revenir dans les quelques minutes là d'introduction sur les termes de ces journées et dans un objectif assez simple et assez pratique qui est celui, disons, de fixer quelques fils rouges qui pourront nous guider dans la confrontation des différentes sessions et des différentes communications des trois demi-journées que nous allons avoir. Alors quand je dis fixer quelques fils rouges, le but n'est pas du tout de fermer les problématiques, hein. Il y a probablement des problématiques qui apparaîtront, qui n'étaient pas présentes dans notre appel, et c'est tant mieux. Le but n'est pas non plus de fixer ou de déterminer définitivement des définitions des termes que nous employons. Le terme de politisation, par exemple, je vais y revenir dans un instant, fait l'objet de beaucoup de débats en sociologie politique et en sciences politiques. Et donc, il ne s'agit pas de commencer en donnant une définition vis-à-vis de laquelle tout le monde sera ensuite évalué dans ce qui va suivre. Mais je voudrais malgré tout repartir des termes, parce que c'est une manière simple de dire nos motivations personnelles et les motivations collectives et scientifiques de ces journées pour nous. Alors, donc dans le titre des journées, il y a d'abord effectivement ce terme de politisation qui, dans un premier temps, nous est apparu intéressant pour sa dimension, disons, critique ou négative, c'est-à-dire il pointe vers une critique des approches très institutionnalo-centrées ou très légitimistes de la citoyenneté et de la participation politique dans la science politique et dans la sociologie politique. Et donc, à ce titre provisoire-là, il a une première utilité. Ce qui veut dire qu'on se demandera ici, collectivement, comment parler de comportements politiques qui ne relèvent pas toujours, qui ne relèvent pas immédiatement, qui ne relèvent pas exclusivement des sentiers les plus balisés de la participation politique pour aller vite vote et mouvements sociaux, parce que ce sont les branches les plus instituées, les plus routinisées de la discipline. Et donc l'intérêt qu'on a voulu avoir, c'est de mettre un peu en lumière d'autres pratiques, peut-être pas immédiatement qualifiées de politiques et qui sont à l'écart ou en branchement avec ces pratiques plus instituées et largement étudiées. Ces pratiques, du coup, dessinent un continent assez varié, assez hétérogène. Hein. Ça peut être des pratiques que certains qualifient parfois de proto-politiques, comme des pratiques émeutières ou de violences urbaines, mais ça peut être des pratiques d'engagement associatif, de politique informelle, de politique par le bas, d'infra-politique. Si j'emploie ces mots, c'est pour pointer vers l'inventivité sémantique assez grande que les études politiques ont connue ces dernières années, pour dire justement ce dehors, ou en tout cas ces frontières de ce qui constitue le cœur de la sociologie politique ou de la science politique, nombreuses notions, infrapolitique, politique par le bas, politique informelle, travaux multiples, qui sont partis, selon nous, de prémices semblables aux nôtres aujourd'hui, et qui déjà constituent une bibliothèque sur laquelle on pourra s'appuyer, peut-être d'ailleurs que on le fera dans les communications et dans les débats. La deuxième idée, qui est très générale aussi, liée à cette idée de ce concept ou cette notion de politisation, c'est une idée qui pointe vers l'idée qu'on peut étudier la politique non pas comme une relation fixe à un domaine de pratique déjà donné, mais comme un processus, une succession d'actes, se situant donc en apparence ailleurs ou cherchant éventuellement à redéfinir le domaine de la politique légitime. Alors là aussi, hein, c'est une tradition de recherche qui est déjà constituée. Pour mémoire, je rappellerai le livre de Jacques Lagroix qui était dirigé et dont le titre portait justement sur la politisation et qui, donnait, entre autres, cette inflexion un peu processuelle dans les études politiques qui anime aussi nos intentions. Ne pas partir ou essayer de ne pas partir d'un repérage préalable du politique qui viendrait fixer le questionnaire ou fixer la problématique des études politiques. Et deuxième peut-être souci derrière cette approche processuelle, essayer de ne pas recourir immédiatement à une définition trop intellectualo-centrée du rapport légitime au politique, essayer de prendre des distances par rapport à des prismes cognitifs, un prisme cognitif qui a peut-être dominé les études du rapport au politique et notamment les études en termes de compétences politiques. Ça serait, disons, la deuxième sous-idée derrière cette approche processuelle. Donc on est parti avec ces idées générales, derrière des recherches de formes ordinaires, effectives de citoyenneté, derrière la citoyenneté la plus formelle et la politique, disons, conventionnelle. Deuxième commentaire plus court sur le terme de précaire qui est présent également dans notre titre. Bon, il me semble que les problèmes un peu épistémologiques ou généraux qu'on vient de pointer là à partir de l'idée de politisation sont redoublés quand on étudie la politique des fractions dominées ou des catégories populaires. C'est-à-dire que les limites de l'intellectualocentrisme dans l'étude du rapport aux politiques, les limites du légitimisme dans l'étude des pratiques politiques sont comme encore plus flagrantes. Et donc ces problèmes de construction d'objets sont particulièrement saillants quand on étudie les fractions dominées, reléguées, les classes populaires, etc. Elles renvoient à un problème, là aussi, plus général de sociologie, je crois, qui est le problème, au fond, du misérabilisme dans les études en sociologie. En parlant de misérabilisme, je fais une référence implicite à un ouvrage qu'on a mentionné ici après d'autres, et notamment après Bernard Pudal, qui en a déjà tiré effectivement un certain nombre d'enseignements pour ses propres travaux. Je fais référence à un ouvrage qui n'avait pas été destiné au départ aux études politiques, qui est l'ouvrage de Jean-Claude Passeron et de Claude Grignon, qui s'appelle « Le savant et le populaire », qui disait, bon, en tout cas c'est une interprétation possible, on peut en avoir plusieurs lectures, qui disait, je le rappelle, en gros, qu'effectivement, dans l'étude du populaire, il est difficile d'éviter une forme d'alternative mortelle, qui est mortelle scientifiquement, je vous rassure, qui est l'alternative entre le regard misérabiliste, qui justement s'empêcherait de voir un certain nombre de pratiques ordinaires à cause d'une définition préalable légitimiste de l'objet, et puis le populisme qui, au contraire, aurait un regard enchanté, un regard surpolitisé sur les pratiques sociales ordinaires des classes populaires. Bon, il nous a semblé fécond à nouveau de transférer, ce problème épistémologique qui vient de la sociologie de la culture au départ, de le transférer du côté des études politiques pour voir ce que pourrait vouloir dire étudier donc la politisation des fractions dominées et des groupes populaires en ne cédant ni au misérabilisme, ni au populisme, c'est-à-dire ni effectivement à l'idée que la politique des couches populaires est une politique improbable, impossible, que les compétences sont toujours des compétences en défaut, que la politique des précaires est une politique précaire, pour aller vite, mais sans céder non plus à l'écueil inverse, qui serait celui, par exemple, qu'on a pu voir ou qu'on voit régulièrement dans des ouvrages qui font une radiographie des mouvements de lutte, qui ont une conception surpolitisée de toutes les pratiques sociales. Je ne citerai pas de nom d'ouvrage. Et donc, est-ce qu'il y a une troisième voie possible ou est-ce qu'on peut sortir, disons, de ce couplet épistémique disons, bon, voilà, je, mortifère, c'est excessif, mais qui peu fécond. Voilà. Troisième terme, et je m'arrêterai là. Troisième terme que je voulais commenter. Alors évidemment, hein, cette ligne, elle est pas employée que par nous. Hein. Je citerai un ouvrage, alors qu'évidemment, on rencontrera pas l'assentiment ici, hein, probablement, mais qui me semble chercher une voie très proche de ce que je viens de dire, justement sur ces catégories dominées, reléguées ou populaires. Hein. C'est l'ouvrage qui est sorti cette année que je dois avoir dans mon sac. Hein. Voilà, l'ouvrage Les Inaudibles, dont certains participants d'ailleurs à ces journées. Auxquels certains participants à ces journées ont contribué. Hein, l'ouvrage Les Inaudibles de Céline Braconnier et Nona Meyer, dirigé par elle, Sociologie politique des précaires, justement, hein, part d'un constat anti-misérabiliste et cherche à développer un certain nombre de méthodes, de moyens pour étudier justement la politique de ceux qui, en général, sont parfois, enfin, à qui on ne prête pas une compétence politique très, très élevée. Et il parvient. Hein, il y a des résultats positifs dans ce livre qui sont très nombreux. Bon. Donc, politique précaire. Dernier commentaire sur l'émergence. Bon, par politisation émergente, on ne voulait certainement pas dire ici qu'on s'intéressait uniquement aux politisations nouvelles, aux politisations inédites, aux politisations d'actualité, même si évidemment certaines communications reviendront aussi sur des formes de participation politique plus récentes, comme les ZAD par exemple. Il s'agissait plutôt de pointer notre intérêt, ou de réaccentuer ce qui était déjà contenu dans ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire l'intérêt d'un regard pour des formes peu reconnues, peu visibles ou invisibilisées, c'est d'ailleurs un point qui sera peut-être débattu, de la politique, plutôt que pour des formes absolument nouvelles, car nous sommes, comme d'autres, méfiant envers le culte du nouveau. Nous ne sommes pas certains que, effectivement, je ne sais pas, les indignés ou Podemos soient en soi nouveaux, simplement parce qu'ils sont qualifiés par des appellations nouvelles. Donc ici, émergence renvoie plutôt à des formes de défauts de reconnaissance et s'oppose aussi à récurrent, hein, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, s'oppose à récurrent au sens où on s'intéresse, disons, justement à la question de la durabilité des mobilisations, des politisations, la durabilité qui nous semble justement une des questions, très importante pour penser justement des politisations émergentes. Dans quelles conditions, à quelles conditions sociales et politiques est-ce qu'elles peuvent se transmettre, est-ce qu'elles peuvent durer? Et donc on aura probablement des questionnements autour de la variable générationnelle et aussi autour des formes de transmission politique qui nous semblent des questions liées très fortement à la problématique qu'on a voulu poser. Voilà. Je passe la parole à Michel.
Merci Laurent. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'associe évidemment aux remerciements faits par Laurent et rappelle qu'effectivement, bon, on est très content de lancer ces journées. Alors, Laurent a déjà indiqué un certain nombre de fils. Je vais en rajouter quelques-uns et aussi finir sur des considérations très très pratiques qui concernent l'organisation de ces deux journées. Comment ne pas désespérer complètement de la politique ? Il me semble que c'est une question qui n'est pas nouvelle, qui peut peut-être remonter à la Révolution française, mais qui a retrouvé une actualité dramatique lors du 13 novembre. Et il me semble que c'est une question qui nous concerne. Alors si on prend un régime de temporalité un peu plus à moyen terme, en tout cas plus contemporain, on pourrait traduire cette question par comment ne pas désespérer Billancourt. Hein. Bon, au fond, dans un contexte où on voit bien l'avancée glorifiante et glorifiée du capitalisme, mais où on peut aussi, par exemple en France, constater assez amèrement l'avancée du Front National, par exemple, ou de l'extrême droite. On pourrait, dans ce sens, aussi multiplier les signes de désespoir politique à l'égard de mouvements qui s'annonçaient joyeux, structurés. Bon, évidemment, je ne peux pas ne pas penser au mouvement politique des banlieues que l'on cherche depuis plus de 30 ans et qui se cherche toujours aujourd'hui. Donc comment ne pas désespérer complètement de la politique et du même coup, comment aussi ne pas actualiser simplement les défections qui sont, on le sait bien, constitutives de notre modernité, la dépolitisation, la décroyance, la défiance, la déstructuration des milieux populaires, pour citer le sous-titre de « La démocratie de l'abstention », livre aussi remarquable dans les années 2000. En même temps, comment effectivement, j'emboîte aussi le pas de Laurent sur ce point, comment éviter d'adopter une position en surplomb qui permette de réenchanter le monde, de décrire les mille luttes qui fleurissent ici et là. Bon, c'est effectivement à cette ambivalence qu'il s'agit d'échapper, y compris en interrogeant la posture ou la position ou le rapport des chercheurs à leur objet politique, c'est-à-dire comment produire une sociologie engagée ou, en étant plus large, un savoir engagé, en considérant que, au fond, la sociologie n'a évidemment pas le monopole des recherches dans ce domaine. Donc voilà quelques questions supplémentaires qui sont préalables à la fois à ces journées, mais qui les traverseront peut-être en partie. Alors, Laurent l'a dit, notre point de départ est de réinterroger les formes de politisation contemporaine dans leur dynamique, c'est-à-dire ne pas partir d'une définition a priori, ni de la politique, ni du politique, ni de la politisation. Alors on peut le faire de multiples manières, j'en cite pour exemple quelques-unes, de considérer que la politisation est un processus historique d'intéressement à la politique des profanes par les professionnels, ou encore de considérer que, au fond, la politisation renvoie à un intérêt inégalement distribué socialement, ou aussi considérer la politisation en termes de socialisation politique. Plutôt que donc cette forme de nominalisme, il s'agit plutôt de mettre en tension des processus de dépolitisation et de repolitisation. Alors, repolitisation par le bas, oui, on peut reprendre cette expression. En privilégiant le point de vue des acteurs, on peut aussi s'y associer dans quelle mesure, on en reparlera peut-être, puisque si au fond, dans les mouvements ou mouvances que l'on cherche à décrypter, se lit de la résistance, pour qu'il y ait de la résistance, il y a un sujet, quelle est la forme de ce sujet, quels sont les contours de ce sujet, on sait que ce ne sont plus vraiment ni le peuple, ni le prolétariat, mais quel autre groupe sujet, comme disait Sartre. Voilà le type de question qui peut être posée. Et donc, c'est ce qui nous intéressera dans la table ronde, j'y reviendrai, s'intéresser à l'expérience de la politisation. Alors, c'est cette focalisation sur ces processus de, notamment de dépolitisation, de repolitisation, bon, sont une manière évidemment d'échapper à tout évolutionnisme et donc toute conception linéaire du temps de l'histoire, puisque ça ne cesse de se faire et de se défaire, y compris de manière plus ou moins invisible. Et à ce propos, on aurait pu ajouter dans la très belle présentation, je trouve, de ces journées, une phrase qui nous vient d'un philosophe proche de Mario Tronti et Tonio Negri, qui disaient, au fond, à propos de mouvements en Italie dans les années 70, ils ressemblent un peu à ces fleuves karstiques dans la zone frontalière entre la Slovénie et l'Autriche, visibles, puis souterrains et invisibles, avant de ressurgir à nouveau en différents petits ruisseaux qui débouchent dans un lac et deviennent ensuite tumultueux. Donc, je ne substitue pas le naturalisme au nominalisme, évidemment, mais c'est une façon de dire qu'il y a des résurgences qui nous renseigne sur ces mouvements que l'on cherche à interroger, hein, des mouvements qui ou des mouvances ou des comment les nommer, qui apparaissent, disparaissent, se font, se défont, bon, sont parfois volontairement invisibles et pas forcément parce qu'ils sont dominés. Et eh bien ces résurgences, pour reprendre ce terme, évidemment nous intéressent et nous espérons en retrouver les traces, en particulier dans ces deux journées. Alors tout ça n'est pas sans implication méthodologique. On n'aura pas forcément beaucoup d'interventions qui privilégient le temps long ou la dimension historique, mais néanmoins, je pense qu'elle sera souvent sous-jacente. Permettez-moi de filer à nouveau cette métaphore. Elle renvoie cette dimension historique ou socio-historique à un des axes forts sur le plan méthodologique du CRESPA et du travail des différents chercheurs dans les équipes. S'ajoute à cette dimension, disons, socio-historique ou temporelle, une dimension plus ethnographique qui consiste effectivement à aller observer des acteurs ou des individus et des groupes qui deviennent acteurs. Et au fond, l'ethnographie, c'est de pouvoir documenter ce qui ne peut pas simplement s'enregistrer par le discours, c'est-à-dire des pratiques non officielles, hein, des pratiques qui ne sont pas forcément dissibles, qui ne sont pas forcément donc qui ne passent pas forcément par les questionnaires ou par les entretiens. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'observation se limiterait au voir et s'opposerait à ce qui serait dire. Bien sûr, les deux choses sont liées, mais il nous semble, et on aura l'occasion de le voir, que la plupart des travaux qu'on va entendre sont plutôt orientés vers une perspective ethnographique, pas sans raison, s'il s'agit de s'intéresser au point de vue des acteurs, à l'expérience ou encore à des formes des pratiques citoyennes informelles. Alors, voilà quelques éléments, je ne vais pas en rajouter trop pour être justement trop long. Une transition, alors, avec la table ronde, on a effectivement choisi d'organiser une table ronde plutôt avec des acteurs, plutôt que des académiques, pour le dire comme ça. Donc, on s'est dit deux choses. D'une part, pourquoi ne pas faire parler les acteurs eux-mêmes ou ne pas les interroger sur les questions qui sont les nôtres et, chemin faisant, essayer de couvrir certains des thèmes que nous n'avons pas pu couvrir face aux textes qui nous ont, aux communications qui nous ont été proposées. Je pense notamment au thème des migrants et des migrations. Donc cette table, elle a été un peu composée, bon d'ailleurs comme l'ensemble des journées, on peut le dire humblement, un peu dans l'urgence. Donc le choix est en partie arbitraire. Je vous laisserai lire la composition de cette table ronde où on parlera quand même successivement des quartiers populaires, des mouvements de libération kurde et de Podemos. Donc vous voyez que c'est un peu éclaté. Avec comme caractéristique que cette table ronde, c'est important et pas du tout démagogique, sera animée par des doctorants qui ont largement participé à l'organisation de cette table ronde et qui donc l'animeront à la fin de la journée.